Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Bonjour Françoise Hardy.
Bonjour Michel Denisot.
Vous êtes la plus iconique de toutes les invitées que j'ai eues dans cette émission. Vous êtes iconique.
Ah bon ?
Oui, pour tout.
Oui, mais moi, vous savez, je n'aime pas beaucoup ce qualificatif ni le mot. D'accord. Je serais une icône au conditionnel. J'aime pas beaucoup ça. Mais enfin, puisque votre émission.
Je vais changer le titre.
Oui, oui, vous pouvez changer de titre.
D'accord. Ouais, oui. Je veux dire, vous êtes iconique pour toutes les générations de Mick Jagger, Bob Dylan, Étienne Dao, Clara Luciani. Je pourrais en citer tant et tant. Et je voulais savoir, alors, le mot ne vous convient pas, le mot icône ne vous convient pas, mais on va trouver quelque chose de ressemblant. En tout cas, ce qui a le plus influencé votre vie, je serais tenté de dire que c'est d'abord la guitare, parce que à un moment donné, quand vous avez eu le bac, vous hésitiez en demandant deux cadeaux à votre père. C'était soit un transistor, soit une guitare, et ça a été la guitare.
Oui, c'est-à-dire que mes parents n'ont jamais vécu ensemble et leur rapport était extrêmement froid. Et donc, elle avait fait l'effort d'appeler mon père quand j'avais été reçue au bac, j'avais 16 ans et demi, pour lui demander de faire un geste. Et moi, elle m'avait dit « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Donc à l'époque j'écoutais tout le temps Radio Luxembourg, pas Europe 1, mais j'écoutais la station anglaise et c'est là où j'ai découvert ce qui vraiment m'a influencé toute ma vie, c'est-à-dire les Shadows, Elvis Presley, etc. Et donc je ne sais pas pourquoi, je ne le saurai jamais. Pourquoi j'ai hésité entre me faire offrir un petit transistor qui m'aurait permis d'écouter ma station anglaise tout le temps et une guitare. Pourquoi j'ai eu l'idée d'une guitare, je n'en sais rien. Je n'avais absolument pas dans l'esprit de jouer de la guitare, ni de chanter, ni rien du tout, ni de faire des chansons. Alors du coup, je pense maintenant, parce qu'avec le temps, on se met à croire quand même en un au-delà, et je pense que l'idée m'est venue d'ailleurs.
Oui, vous parlez des Shadows et Cliff Richards, donc qui est une référence, un son particulier que vous avez recherché souvent.
Oui, les deux, hein, j'aimais les deux, parce que je crois que tous les chanteurs dits « yéyé », ça non plus, j'aime pas beaucoup, mais enfin... Et donc, on était très influencés, et Jacques, j'en suis sûre, par les morceaux des Shadows qui ont eu un énorme succès. Là, il y avait un morceau qui s'appelait Apache,
ouais.
Et puis il y en avait un autre que j'aimais encore beaucoup plus, qui s'appelait Sleepwalk. Et de Cliff Richard, il y avait ces deux chansons que j'adorais. La première, Living Doll, qui a été en tout cas son il me semble, son premier grand succès. Et puis ensuite, il y en avait une qui n'a pas été vraiment un succès, mais que j'aimais encore plus que Living Doll, qui s'appelait Traveling Light. Et moi, j'ai toujours été influencée par cette musique-là, comme par celle d'ailleurs des Everly Brothers, que j'aimais beaucoup et qui m'ont... Enfin voilà, j'étais influencée par eux aussi parce que c'était des vraies mélodies. Enfin, de toute manière, à l'époque et pendant pas mal de temps encore, on découvrait des belles et vraies mélodies tout le temps. Wake up, little Susie, wake up.
Oui, vous citez aussi souvent Ricky Nelson, Brenda Lee, Elvis Presley, vous l'avez dit.
Oui, Ricky Nelson, bon, il y avait juste un tube à ce moment-là, il ne m'a jamais beaucoup intéressé. Mais Presley, par contre, oui, parce que j'ai fait une chanson assez tôt, d'ailleurs, quand j'enregistrais déjà en Angleterre, donc ça devait être vers 66, je sais pas, ou un peu avant. Et j'avais fait une chanson qui s'appelait Dans le monde entier, qui était directement inspirée musicalement parce que...
De Loving You, non ?
Non, d'autres slow que chantait Elvis Presley, Where Do You Come From, des choses comme ça, Anything That's Part of You. Et j'avais dit à mon orchestrateur, Charles Blackwell, que j'avais été influencée par Presley, et il a eu l'intelligence de faire une orchestration avec des arpèges de piano et des chœurs qui sonnaient exactement comme les chœurs des Jordaners, qui étaient ceux d'Elvis Presley. Et la maison de disques anglaise a eu l'idée de sortir cette chanson en Angleterre et en anglais, donc ça a été adapté en anglais sous le titre All Over the World, et ça a été un grand succès, figurez-vous, et en Angleterre et en Afrique du Sud. All over the world, people must meet and part. There's someone like me.
Vous publiez Chansons sur toi et nous aux éditions Équateur. C'est une occasion de visiter votre œuvre, les 28 albums, pimentés d'anecdotes, de révélations et peuplés d'icônes aussi, même si le mot ne vous convient pas toujours. voilà, on peut en citer beaucoup qui sont souvent liés à la naissance de chansons qui sont souvent autobiographiques.
Ah, bah oui, moi, la plupart, enfin, en tout cas, mes meilleures chansons sont vraiment autobiographiques. Elles partent du fond de ce que j'avais dans le cœur, quoi, de douleur et de frustration, puisque par chance, pour les textes de chansons et les chansons, j'ai eu une vie sentimentale assez douloureuse.
Alors, c'est vrai, on voit aussi dans ce que vous venez de définir, une sorte de défaitisme amoureux, notamment dans « Il se fait tard ».
Oui, alors là, j'ai plus tout à fait, c'est une belle mélodie, oui, que j'ai la fierté d'avoir composée. Oui, le défaitisme, c'était que l'autre allait partir forcément, allait me quitter, trouver mieux forcément, obligatoirement. J'ai toujours eu cet état d'esprit.
C'est l'amour auquel je pense, là, c'est une référence à Jean-Marie Perrier.
Je ne sais pas, parce que ça, c'est la première mélodie dont je suis fière, mais malheureusement, j'ai fait cette faute grossière de français, parce que, en fait, j'écrivais les textes en même temps que je faisais les mélodies à cette époque-là, ça s'est appelé « C'est à l'amour auquel je pense ». C'est une très très jolie mélodie, mais je ne crois pas que je m'inspirais de Jean-Marie. Moi, au début, je ne m'inspirais pas de grand-chose. Hein. Et Jean-Marie, par contre, dans le monde entier, qui parlait de la solitude, parce qu'on a été séparés tout le temps par nos activités professionnelles respectives, Jean-Marie et moi, et du coup, j'étais très triste et très très malheureuse à cause de ça tout le temps, et ça, c'est dans le monde entier qui en parle. Ça, c'est vraiment Jean-Marie, enfin mes sentiments pour Jean-Marie qui me l'ont inspiré.
Serge Gainsbourg, qui avait composé la musique de « Comment te dire adieu
». Non, je vous arrête tout de suite.
Je me suis trompé.
Il n'a jamais composé la musique de « Comment te dire adieu ». J'étais allée voir un éditeur qui voulait me voir, parce qu'à cette époque-là, les éditeurs, quand on vendait des disques, ils voulaient tous vous voir et pour vous placer une chanson. Donc j'avais répondu à cette invite, et il m'avait fait entendre des tas de choses qui ne me plaisaient pas du tout. Et comme je voulais pas ressortir les mains vides, j'avais entendu dans tout ce qu'il avait, j'avais entendu un instrumental qui s'appelait « It hurts to say goodbye ». Donc je suis repartie avec ça, et puis je l'ai réécouté chez moi quand même, et je me suis dit « Ah, mais c'est quand même, c'est un gros potentiel ce truc-là ». Mais je ne me sentais pas la capacité d'écrire le texte. Et mon agent de l'époque me dit « Il faut qu'on demande à Serge Gainsbourg ». Alors je lui ai dit « Mais non, c'est pas possible, parce que Serge Gainsbourg, il écrit pour des chanteuses beaucoup plus prestigieuses que moi, comme Juliette Gréco, etc. Et par ailleurs, il n'acceptera jamais de faire une simple adaptation ». Et en fait, il a accepté notre rencontre. Et puis, non seulement il a accepté de faire l'adaptation, parce qu'il a dû sentir aussi le potentiel du morceau, et il m'a donné en prime une chanson à lui qui s'appelait « L'Anamour ». Que j'ai créé, donc je ne suis pas très fière de cette création. Il a fait mieux lui-même par la suite.
Michel Berger, avec Message personnel. Là, je ne me trompe pas.
Ah non, non, vous ne vous trompez pas.
Donc, vous l'avez rencontré, vous aviez envie qu'il écrive pour vous. Là, pareil, vous...
Non, 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 ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, contrairement à ce que disent des faux témoins. Moi, je n'avais plus de contrat parce que deux des albums dont je suis la plus fière, l'album qu'on a appelé La Question, celui qu'on a appelé l'album Orange, c'est deux de mes meilleurs albums. Mais ils n'ont pas marché. Alors, je me suis retrouvée sans contrat et je ne savais pas que faire. Je ne savais pas où aller. J'avais plus de manager, je crois, à ce moment-là. Enfin, je sais plus. Et du coup, comme je connaissais un peu Claude François, enfin même beaucoup, c'était un grand, grand ami de Jean-Marie, et qui venait de créer un label, je m'étais dit, bah, je vais contacter voilà, ce label et puis on verra. Jean-Marie l'a appris et il m'a dit, on était déjà séparés à cette époque-là, alors il m'a contacté, il m'a dit, il faut absolument pas que tu signes là. Il me dit, la seule personne avec qui tu dois travailler, c'est Michel Berger. Et moi, je lui ai répondu, mais Jean-Marie, parce que j'étais déjà, il n'était pas connu encore beaucoup, Michel. Hein, mais on avait adoré l'un et l'autre, une de ses premières chansons, Quand on est malheureux, qui datait de quelques années. Et puis j'adorais l'album de Véronique Sanson, son premier album, que j'adore toujours d'ailleurs, c'est quand même un de ses meilleurs, et je savais qu'il avait coproduit, etc. Donc j'ai dit à Jean-Marie, mais moi je suis pétrifiée d'admiration pour Michel Berger, jamais, jamais je n'oserais le contacter. Et Jean-Marie m'a dit, je m'en occupe. Et c'est comme ça que j'ai vu débarquer chez moi, je me rappelle, et Michel Berger et Véronique, parce qu'il était encore avec elle à ce moment-là.
Cette chanson s'adresse à qui ?
Alors là, d'abord, Michel m'a fait entendre la mélodie de la chanson. Il n'y avait pas de titre, hein. Donc il avait écrit des paroles dessus. Donc les paroles chantées sont des paroles de lui. Et puis, moi j'ai tout de suite perçu, parce que j'ai une espèce d'instinct pour ça, que cette chanson avait un très gros potentiel, très au-dessus de la moyenne, et il m'a dit, et c'est là où on voit que c'était vraiment un artiste génial, quoi, un compositeur de génie, il me dit, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait toute une partie parlée qui précède la partie chantée, et je voudrais que ce soit toi qui l'écrive. Donc j'ai écrit, ça m'a pas été très difficile, il suffisait que je raconte ce que je vivais à ce moment-là. Et ensuite, donc il a tout de suite accepté le texte et il m'a dit, bon bah maintenant il faut trouver un titre. Et je me souviens que j'ai passé 3 jours à ne penser qu'à ça. Je ne trouvais pas. Puis le troisième jour, j'ai trouvé Message personnel et je savais que c'était un bon titre. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
Donc là, ce message s'adressait à...
Ah bah, la partie parlée, c'était forcément ce que je vivais avec Jacques à ce moment-là.
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être.
Patrick Modiano, c'était une rencontre qui a fait naître la chanson « Étonnez-moi, Benoît ».
Alors, Patrick avait un ami. Moi, je ne connaissais pas Patrick à l'époque. Moi, je connaissais de nom. Et donc, il avait un ami, Hugues de Courson, qui est venu me voir pour me présenter des chansons. Il est venu chez moi. J'habitais rue du Rocher à l'époque, dans un petit studio. Et Hugues, pareil, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé pour l'amitié, ça, avec Jean-Max Rivière. Et il me fait écouter beaucoup de choses qui me plaisaient pas, ça me disait rien. Et puis il me dit, au final, un peu en désespoir de cause, il me dit, bon, il me reste une chanson, mais je pense pas que ce soit pour toi ou pour vous. Il devait me vous voir à l'époque. Et donc c'est là où il m'a fait entendre Étonnez-moi, Benoît. Et j'ai trouvé que c'était tellement original, Étonnez-moi Benoît, coupez-vous les oreilles, mangez deux ou trois abeilles. J'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai dit, ah ben non, moi ça m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Patrick. Et qu'on a d'ailleurs travaillé ensemble sur plusieurs chansons. Il m'a fait des textes formidables. Il a fait un texte qui s'appelait « Je fais des puzzles ». Le soir, je me sens bien seule. Le soir, je fais des puzzles. C'est lui qui avait fait ça.
Étonnez-moi, Benoît, marcher sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît, des abricots et des pois, et des lames de rasoir, étonnez-moi.
Gabriel Yared est très présent aussi.
Mais Gabriel, je l'ai rencontré parce que il y avait une chanson que Bernard Estardi du studio CBE où je travaillais à cette époque-là m'avait fait entendre. C'est une chanson de Michel Jonas. Il était parti dans une autre maison de disques et la chanson, du coup, elle cherchait une interprète ou un interprète. La chanson m'a beaucoup plu. Mais je ne savais pas, j'avais pas encore de vrai projet d'album et tout ça. J'en ai parlé à l'éditeur de la chanson, je ne me rappelle plus du titre de la chanson, mon enfance, c'est ça. Et donc, l'éditeur m'a envoyé Gabriel Yared. Et je me rappellerai toujours de notre première rencontre. Il était affalé sur un canapé à côté du bureau de l'éditeur. Et j'ai été frappée par lui, mais vraiment, parce que il avait un regard, mais brûlant, je dirais. Il avait un regard brûlant, et je me suis tout de suite dit, celui-là, il est pas comme les autres, il est pas comme tout le monde. Et j'ai été tout de suite intéressée par lui, et je connaissais pas tout ce qu'il avait fait encore. Et par la suite, évidemment, j'ai découvert que c'était un très, très, très grand, musicien, compositeur, etc. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui.
Combien de chansons avez-vous écrites à destination de Jacques Dutronc ?
Inspiré ouais. Par les sentiments que j'éprouvais pour lui. Ah bah c'est impossible à compter. Il y en a trop. Il y en a énormément, énormément, énormément. Je crois que le plus grand nombre de mes chansons est encore récemment. Dans mes derniers enregistrements, par exemple, il y a un album qui s'appelle Personne d'autre. J'ai pris ce titre parce que c'était un titre accrocheur, mais c'est aussi le titre d'une chanson qui s'appelle Personne d'autre, dont j'ai écrit le texte, et le texte résume mon histoire avec Jacques. Dans l'album précédent, il y avait une chanson qui s'appelle Rendez-vous dans une autre vie. Et le rendez-vous, c'est à Jacques que je m'adresse.
Est-ce qu'il vous répond ?
Mais moi, pendant très longtemps, il n'a jamais écouté mes chansons, donc...
Vraiment ?
Je crois, oui.
Oui, il vous l'a fait croire ?
Ah non, moi, je crois qu'il ne les écoutait pas. Hein. Je sais que j'ai fait tout un album en pensant à lui et en espérant le rendre jaloux. Je racontais l'album en tract. Je racontais une rencontre avec quelqu'un avec qui se passait quelque chose parce qu'on en avait marre d'être un meuble pour l'autre.
Ce soir,
réunis tous les trois avec Thomas dans Puisque vous partez en voyage.
Oui, oui. Nous adorions Mireille, tous les trois. Et puis, peu après le décès de Mireille, ça c'est un grand regret pour moi de ne pas y avoir pensé plus tôt. Je me rappelle, c'était le printemps, je me promenais dans les bois, pas très loin de là où nous habitions à ce moment-là. Et c'était, je sais pas, j'étais un peu euphorique et tout ça. Puis d'un seul coup, l'idée m'est venue de faire en duo avec Jacques cette chanson, Puisque vous partez en voyage, qui est la chanson que je préfère de Mireille. Et enfin, elle en a fait beaucoup qui sont formidables. Hein. Et Jacques a accepté tout de suite. Et puis j'ai demandé à Jean-Pierre Sabar, qui s'est occupé de l'orchestration, de prendre Thomas comme guitariste parce que Mireille nous aimait beaucoup tous les trois. Donc voilà, il fallait qu'on soit tous les trois sur sa chanson.
Parmi les rencontres que vous avez fait, les duos que vous avez fait, il y a Alain Delon avec qui vous avez enregistré le jour de votre fête.
Oui, parmi les rencontres que j'ai faites, en effet, il y avait celle-ci. C'était un album de duo commandé par ma maison de disques. J'étais pas chaude au départ, j'ai même dit non. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est l'occasion ou jamais de rencontrer des artistes que je ne rencontrerai pas sans ça. Et j'avais dans mes tiroirs un instrumental avec une voix parlée dessus, dont je trouvais le texte très intéressant. J'avais gardé ça, mais je savais pas quoi en faire. Du coup, j'ai pensé à ça. Et ensuite, j'ai pensé à Alain Delon parce que je percevais plus ou moins chez lui un côté sombre et voire un côté un peu sulfureux. Et c'est ce qui le rendait encore plus intéressant à mes yeux. Bon, alors je lui ai fait parvenir cette maquette pour lui demander s'il accepterait, et puis il a accepté à ma grande surprise. Je m'étais dit que si jamais il n'acceptait pas, parce que moi je m'attendais à ce qu'il refuse, et j'avais pensé à Guillaume Depardieu dans le genre sulfureux, etc. Mais je préférais que ce soit Alain Delon, et donc j'étais enchantée qu'il accepte. Alors, on a fait la rythmique avec Rodolphe Burger et j'ai posé ma voix dessus parce que je ne pouvais pas, ça aurait été beaucoup trop pour moi de faire ma voix en même temps qu'Alain Delon. Et donc on a envoyé tout ça à Alain Delon pour qu'il travaille, je ne sais pas. Et en effet, la séance a été prise, moi j'avais pas noté la date, un 9 mars. Et on était trois à l'attendre dans le studio, le taulier, Dominique Blanc-Francard, toujours un grand, grand ingénieur du son, sa femme qui faisait les prises de son à sa place, et puis moi. Et on était tétanisés à l'idée qu'Alain Delon allait débarquer. Il a débarqué, mais à la seconde près, enfin en tout cas à la minute près, et il est arrivé avec un bouquet d'anémones blanches, magnifique, et il me l'a tendu en me disant « Bonne fête, chère Françoise ». Et j'étais suffoquée parce que moi-même, je ne savais pas qu'on était le 9 mars et que c'était, voilà. Et je fais pas trop attention à ces choses-là. Donc ça m'a beaucoup touchée, ça ne m'a pas étonnée parce que, en dehors de son côté sombre aussi, je sais que c'est quelqu'un qui a toujours une classe folle et beaucoup, beaucoup d'élégance. Alors ce qui a été surréaliste, c'est qu'il m'a dit, bon, Alors, on lui a indiqué le micro devant lequel il fallait qu'il se tienne. Il me dit, bon, alors vous restez à côté de moi, et chaque fois que c'est à moi de parler, vous me tapez sur l'épaule. Voilà. Alors, je battais la mesure, et puis je lui tapais sur l'épaule, chaque fois que c'était à lui. Et moi, j'ai été absolument soufflée, parce que j'ai trouvé son interprétation géniale de bout en bout.
J'ai l'impression que quand vous souhaitez quelque chose, vous avez toujours l'impression que ça va être non.
Bah parce que moi, à partir du moment où je m'adresse à Alain Delon, c'est quand même, je m'adresse à plus icônes que moi, beaucoup plus.
Vous avez fait un duo avec Bachung, qui vous a dit, qui était, je pense, aussi réservé que vous, peut-être timide même.
Et
qui
ah vous... oui. Moi, je l'adorais à tout point de vue, sur le plan humain et sur le plan artiste, quoi, talentueux, comme personne, enfin, comme beaucoup, mais comme tous ceux qui sont très, très talentueux. Et donc c'est lui qui m'avait demandé longtemps avant si je voulais bien chanter avec lui « Que reste-t-il de nos amours ?». Donc je me suis dit, il a lu quelque part que s'il fallait choisir une chanson entre toutes, ce serait celle-là, et il doit penser la même chose. Malheureusement, il fallait chanter en direct pour Canal+, et tout ça, donc j'ai dit que je pouvais pas, que c'était au-dessus de mes forces, je chantais plus en direct depuis des lustres. Et donc, quand il s'est agi de l'album de duo, j'ai repensé à lui. Et on l'a contacté pour savoir s'il accepterait qu'on enregistre la chanson ensemble. Il a accepté, et je me rappelle très bien qu'il est arrivé avant moi en studio. Moi, j'arrive toujours très à l'heure. Donc, il est arrivé en avance. Et à un certain moment, donc quand j'étais arrivée, Alain errait dans le studio, et ne savait pas que les micros étaient branchés et qu'on pouvait l'entendre. Donc, il tournait un peu en rond dans le studio. Et puis, à un certain moment, on l'a entendu dire « Je suis bien là ». J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, le duo, moi, j'avais le trac hein, quand même. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé parce que je n'ai pas enregistré. Tous les duos n'ont pas été enregistrés directement avec mon partenaire. Celui avec Julio Iglesias, Julio a préféré le faire seul en Espagne, je ne sais où. Et donc, une fois que ça a été fini, vraiment, ça a été très agréable de chanter ce duo avec lui. Je lui ai dit que j'avais un trac énorme à la fois de chanter avec lui, mais aussi qu'on s'attaque à une chanson sacrée. Alors, il m'a répondu, il en va des grandes chansons comme des très belles femmes, il ne faut pas trop les respecter. Et je m'étais dit, il a une répartie, ça m'a fait penser un peu à la répartie de Jacques. Très inattendue, très originale, et voilà, de la part de quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
J'imagine que vous êtes fier du parcours de votre fils Thomas.
Ah bah oui, très fier, oui. Je suis très fier, surtout Je suis très fière de tout, hein, mais particulièrement des chansons que je trouve absolument géniales, qu'il a composées et écrites. Je les trouve formidables parce qu'il a un langage à lui. Il écrit des textes qui sont vraiment, qui ne ressemblent à aucun autre et qui sont pleins de sensibilité, de... Et vraiment, et c'est un langage à lui, et ça c'est la chose la plus difficile à trouver et à faire. Mais lui, ça lui est naturel, parce qu'il a... Voilà, c'est un créateur.
Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps, Françoise Hardy. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Bah, il la remercie hein, de nous avoir accompagné la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Bah non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Vraiment, enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seule sur le quai et vous me verrez dans la gare
me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours
et retourner dans notre cœur. Attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Bah, il espère que c'est un fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore? Oh là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins ou davantage pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il écrit encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage. Tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.